Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews NFL 2022 de TD Actu. Une preview par jour, vous avez l'habitude maintenant. À mes côtés, Grégory Richard, bonjour.
Bonjour messieurs et bonjour à tous.
Et Camille Sarabène, je ne sais pas pourquoi. Je pensais à Camille. Bonjour à Camille.
Ah.
Alors c'est pour vous dire, c'est parce que j'ai parlé avec lui tout à l'heure. Voilà, je vais le dire juste avant l'enregistrement. Lucas Vola est avec nous. Bonjour Lucas.
J'ai pas une aussi belle voix que Camille, donc je pourrais même pas l'imiter.
Oui.
Mais bonjour tout le monde.
Oui, mais tu partages avec lui une chevelure que je jalouse.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Tu as une chevelure magnifique, Lucas. Je tiens à te le dire
en
vidéo.
C'est très gentil. C'est l'air du sud qui me.
On sent que ça a poussé d'ailleurs depuis que tu as quitté Paris. Je sais pas si ça les vivifie.
Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
Bon,
c'est le soleil, l'engrais.
On parle des Washington Commanders, messieurs, après les Redskins et la football team. Washington a enfin trouvé un nom définitif de son équipe entre le patron qui passe son temps devant chez les juges et les changements de nom. On se croirait au RPR, hein, mais on est à Washington. L'an dernier, 7 victoires, 10 défaites. On ne sait pas trop comment, mais on accepte, hein, les faits sont là, ils ont gagné cette match. Carson Wentz arrive pour essayer de se venger des Eagles, qui n'ont tellement plus peur de lui qu'ils s'en foutent probablement qu'ils soient dans la division. Lucas, est-ce que c'est grâce à lui que les Commanders vont gagner cette année? Parce qu'au niveau des arrivées, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Il y a Andrew Norwell sur la ligne offensive, Trey Turner et Feo Bada en défense. Du côté des départs, ils ont perdu Ryan Fitzpatrick, Ricky Sears-Jones, Brandon Scherff, Eric Flowers, Matthew Anidis et Landon Collins. Ils ont perdu pas mal de monde, hein. Ils ont drafté Johan Dodson notamment, et puis Darian Mathis sur la ligne. Est-ce que Carson Wentz, c'est mieux que Ryan Fitzpatrick? On va le tourner comme ça. Tiens.
Oh, c'est une bonne question. Là. Franchement, si c'est mieux, c'est pas beaucoup mieux. Si tu posais la question avant de savoir si les Commanders allaient gagner grâce à Carson Wentz, la réponse sera non. Ils vont peut-être ne pas perdre à cause, enfin ils ne perdront pas parce qu'il a fait des erreurs, mais ce que je veux dire c'est que Carson Wentz, on sait ce qu'il vaut désormais. C'est pas tout à fait le joueur que c'était en 2017 quand il est dans la course du MVP, c'est pas tout à fait le joueur que c'était en 2020 quand il était vraiment au fond du trou avec les Eagles. C'est un quarterback entre les deux, comme on a pu voir l'année dernière, c'est-à-dire que qui n'est pas forcément un joueur qui va éclabousser de son talent, mais qui va quand même pouvoir permettre à son équipe de rester dans la plupart des matchs. Donc en fait, je pense que c'est un quarterback moyen plus. Reste à savoir comment on jugeait Ryan Fitzpatrick, mais c'était peut-être un quarterback moyen plus aussi. Hein.
C'est très étrange, Carson Wentz, l'an dernier, il a 27 touchdowns pour 7 interceptions, ce qui n'est pas une fiche immonde en soi. Mais on en garde tous un très mauvais souvenir et on voyait que dans le jeu, il y a un truc qui n'allait pas, Greg. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec Carson Wentz?
Le manque de rythme, le manque de dynamisme peut-être, mais je pense que très clairement, c'est quelque chose qui est plus forcément de son ressort. Alors, j'avais posé une question volontairement polémique tout à l'heure quand tu as demandé si Wentz était meilleur que Fitzpatrick. J'avais même te demandé si Carson Wentz est meilleur que Tyler Heinicke, en vrai.
C'est vrai, j'aurais dû aller vers là, parce que je serais le premier à te dire que je ne comprends pas pourquoi tu vas chercher Carson Wentz plutôt que Tyler Heinicke.
Mais si on démarre directement par le débat sur Carson Wentz, vous l'avez bien dit très concrètement. Après, c'est vrai que malheureusement, et c'est un peu le cas malheureusement pour Indianapolis ces dernières années, on retient surtout le fait que à fin décembre, début janvier, il y a quelque chose qui coince en fonction du quarterback vétéran qu'on a. Les Colts, c'était malgré tout en course pour les playoffs, malgré la saison un peu quinquin de Carson Wentz. Donc après, je ne suis pas loin de me dire, un petit peu comme ce qu'on avait dit sur Chicago hier. Pour le coup, Washington et la draft de Brian Robinson, par exemple, m'intrigue en ce sens. Je ne suis pas loin de me dire qu'on va peut-être essayer du côté de Washington de copier un peu l'identité Colts, à savoir courir vraiment à outrance et avoir un Carson Wentz peut-être un peu plus game manager, avoir un Curtis Samuel peut-être un peu un receveur qui peut jouer running back, qui peut peut-être apporter un peu de créativité. Ça peut faire partie des raisons qui peuvent les faire gagner, même si Carson Wentz, de par l'investissement consenti, à savoir deux troisième tours de draft, est pressenti pour être le titulaire à ce poste-là. Moi, pour moi, de toute façon, je ne le verrai pas plus du côté de Washington que comme un game manager. Ce ne sera clairement pas un joueur à qui on va demander, justement, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, par exemple, à un Fitzpatrick, quand il est arrivé l'année dernière, peut-être de dynamiter un petit peu plus l'attaque en essayant de jouer beaucoup plus dans le domaine aérien.
Lucas, il y a des skill players quand même intéressants, avec Terry McLaurin notamment, avec ses coureurs, Antonio Gibson, Brian Robinson, en effet le rookie. La ligne est correcte, même si elle a perdu Brandon Scherf. Donc... Non, ah, pas d'accord sur ligne correcte.
Non, mais en fait, pour moi, les skill players, en effet, il y a ce qu'il faut. McLaurin est un vrai numéro 1, pour le coup. Derrière, il y a Curtis Samuel qui va revenir. Ils ont drafté un receveur qui pourrait aussi apporter une complémentarité. Gibson est très satisfaisant quand même depuis le début, depuis qu'il a été drafté. Il y a McKissie qui est aussi un bon complément. Ils ont drafté aussi un running, Greg en a parlé. Donc, il y a Logan Thomas aussi, qui malheureusement était un peu blessé l'année dernière, mais quand il est en forme, est pas mal. Donc, sur les skills players, en effet, je vous rejoins. Et après, quand Greg faisait la comparaison avec les Colts, ce qui me frappait, c'était ouais, mais les Colts, ils avaient quand même une ligne offensive avec beaucoup de certitude et qui pouvait leur permettre de mettre en place ce jeu-là que Greg a très bien expliqué. Et là, pour le coup, je vois pas beaucoup de certitude sur ces lignes offensives parce que il y a les deux tackles il y a les deux gardes qui ont changé. Il y a Andrew Norwell qui revient, qui est bon, mais qui commence à avoir 31 ans, Trey Turner, je veux dire, ça va beaucoup changer, surtout que Carson...
Juste, les gars, pour la parenthèse, alors ça ne veut pas dire qu'il est au niveau encore aujourd'hui, ça va être un point d'interrogation, mais on rappelle que Norwell a été coaché par Rivera dans un système offensif, justement, où le jeu au sol était déjà beaucoup plébiscité. C'est en ce sens que je dis ça aussi.
Non, mais je suis d'accord, ça reste un bon joueur. En gros, ils perdent Brandon Scherf et Eric Flowers, ils récupèrent Andrew Norwell, Trey Turner. Est-ce qu'ils gagnent au change, est-ce qu'ils ne gagnent pas au change? Je ne sais pas. Pour moi, on va dire que c'est peut-être pareil, sauf que ces deux joueurs-là avaient un peu plus l'habitude de jouer ensemble et avec toute cette ligne l'année dernière. Là, il va falloir tout reprendre. Il y a un bon centre, pourquoi pas, mais surtout que Vance ne me frappe pas comme le joueur qui est capable d'éviter des sacs qui doit prendre. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'il prend des sacs qu'il ne doit pas prendre. Donc, si en plus, il y a une ligne offensive qui n'a pas beaucoup de certitude pour moi, et c'est pour ça que je l'avais mis dans les facteurs X, j'ai du mal à voir Vance performer vraiment encore plus que l'année dernière. Comme disait Greg, à mon avis, on sait ce qu'il vaut et on sait ce qu'il vaudra, à mon avis, encore jusqu'à la fin de sa carrière maintenant.
Alors, pourquoi ils vont perdre, Lucas? Qu'est-ce qui va vraiment les faire chuter? Bon, cette ligne offensive, il n'y a pas de certitude, mais est-ce que ce sera vraiment leur chute ou est-ce que ça va être autre chose?
Non, je ne pense pas, parce que comme je l'ai dit, pour moi, j'ai un peu anticipé, ce n'est pas forcément ce qui va les faire perdre. C'est une question, pour moi, une grosse question. Il y a des certitudes du côté des skills players, il y a des questions du côté de la ligne offensive, et puis après, il y a des certitudes de l'autre côté, du côté de la défense. Elle a été très bonne il y a 2 ans, et puis elle a énormément régressé. Et je ne sais pas si tu as déjà cité les joueurs qui sont arrivés et qui sont partis, mais quand je vois les arrivées et les parties, ça ne me frappe pas comme une défense qui a progressé ou qui s'est améliorée en termes de talent, en termes de joueurs. Le backfield défensif fait très peur. William Jackson avait été payé très cher. Il a très mal commencé la saison. Ça a été un petit peu mieux en fin de saison. Mais c'est pas il ne vaut pas encore l'argent qu'on lui donne. Les linebackers, pareil, on parlait de joueurs qui ont déçu. Jamin Davis qui a été drafté pour être linebacker et prendre la place au milieu de cette défense, m'a pas convaincu non plus. Cette défense-là, pour le coup, il y a énormément de questions. Elle était très mauvaise l'année dernière et je ne suis pas sûr qu'elle se soit améliorée, qu'elle ait progressé.
Je te rejoins sur la couverture aérienne qui fait quand même assez peur. Elle était déjà 29e l'an dernier sur les yards encaissés dans les airs et il y a peu de raisons que ça s'améliore. Je reviendrai un peu après sur le front 7, mais clairement, cette couverture aérienne, pour moi, c'est le gros point noir. Greg?
Bah écoute, je ne vais pas trop parler du front 7, mais malheureusement, il y a un nom qu'on n'a peut-être pas encore prononcé et qui sera sûrement dans les facteurs X tout à l'heure, mais forcément, ça joue un petit peu. Je rejoins Lucas au niveau du backfield défensif. En effet, je pense que tout simplement, cette équipe, il lui manque un cornerback numéro 1, malgré le talent que peuvent avoir par séquence Kendall Fuller et William Jackson. Je pense qu'il faut vraiment un joueur pleinement établi sur cette tâche. Et du coup, j'ai perdu mon point malheureusement. Mais oui, c'est ce que j'allais dire concernant la défense. Et pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, moi, il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup du côté de Washington, c'est le cas de Jack Del Rio. On a vu que l'année dernière, le début de saison avait été extrêmement poussif à tel point qu'on a failli lui montrer la porte et que finalement, il a été conservé. Alors visiblement, il a l'air d'avoir quand même une partie du vestiaire derrière lui. C'est indéniable et ça a été de nouveau vu lors de ses commentaires sur l'envahissement du Capitole ou qui lui a valu une amende, où les joueurs l'ont soutenu derrière, ou en tout cas on dit que voilà, il n'avait rien dit de. Bon, bref, ce qui est quand même assez symptomatique. Mais bref, je trouve que ça fait quand même un peu tâche d'avoir un coordinateur, je trouve, qui prend autant d'attention et surtout une attention très négative au sein de cette équipe-là. Et c'est à mettre aussi en corrélation, par exemple, avec les fameuses scènes qu'on a vues l'année dernière, notamment cet accrochage entre Jonathan Allen et Daron Payne. L'environnement, notamment défensif du côté de Washington, pour moi, m'inquiète un peu et fait qu'en effet, c'est des éléments qui peuvent les amener à sous-performer par rapport à ce qu'on peut en attendre et par rapport à ce que peut proposer l'effectif en place.
Lucas, quel est ton facteur X ?
Du coup, je voulais un peu évoquer, c'était plutôt la ligne offensive, mais on peut en effet parler de Chase Young parce que Greg l'a un petit peu évoqué. Il y a une ligne défensive, qui est peut-être le meilleur groupe dans cette défense. On a parlé des defensive backs, on a parlé des linebackers qui ont des difficultés. Cette ligne défensive, pour le coup, avec Allen, avec Payne, avec Sweat, ça peut être bon, voire très bon. Mais Chase Young a normalement ce potentiel pour être la superstar de cette ligne défensive, le joueur qui pas seulement va faire des sacs de temps en temps, mais est capable de changer le cours d'un match, de capable de faire gagner presque des matchs. C'est normalement ce qui est attendu de lui au vu de sa draft, au vu de son potentiel, d'être un Miles Garrett, un TJ Watt. Pour l'instant, il fait une très bonne saison rookie. Il a été blessé l'année dernière en étant un petit peu moins bien. C'est le facteur X, parce que si pour le coup, ça devient l'un des top 2, 3 defensive end ou pass rusher de la ligue, ça peut devenir une défense qui derrière lui, s'améliore beaucoup.
Cette ligne à 4, moi, c'était mon facteur X aussi. Je veux dire, ils sont milieu de tableau avec 38 sacs l'an dernier. C'est une anomalie vu le talent à disposition. Après, Young revient d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Donc, toujours à savoir à quel moment il sera vraiment à fond. Mais moi, clairement, c'est le facteur X. C'est parce qu'il faut aider en plus ses cornerbacks et ses safety. Donc, ça conditionne tout. Greg, quel était ton facteur X?
Alors forcément Chase Young, je vous rejoins là-dessus. Moi, il y a un point, j'étais d'accord avec l'analyse de Lucas, mais sur un petit bémol. Antonio Gibson, j'aime beaucoup, mais je ne cesse de le répéter, c'est le nouveau running back aux mains qui glissent, et malheureusement je pense que la draft de Brian Robinson n'est pas aussi étrangère à ça. Il y a des pertes de balles qui doivent être évitées dans des moments clés. T'as déjà récupéré Carson Wentz, qui est peut-être pas la sécurité absolue par rapport à ça. Alors, Heinicke perdait des ballons aussi, mais c'est vrai que le nombre de fumbles qui était perdu par Antonio Gibson est assez préjudiciable. Et quand tu finis la saison 2021 à 7-10, alors, ça ne veut pas dire qu'il les aura gagnés, mais en ayant terminé 4 matchs à un touchdown ou moins d'écart, ça peut te laisser des regrets sur la manière dont tu as géré les turnovers. Donc, pour moi, ça va être un facteur X, c'est cette gestion globale et notamment la gestion de l'attaque et du backfield offensif en particulier. C'est forcément un élément qui va faire pencher la saison de Washington ou d'un côté ou de l'autre.
Les pronostics et donc d'abord le calendrier. On commence à Jacksonville, donc contre les Jaguars. Ensuite, ce sera Lions, Eagles, Cowboys, Titans, Bears, Packers, Colts, Vikings, Eagles, Texans, Falcons, Giants, repos en semaine 14, Giants à nouveau en semaine 15, 49ers, Browns et Cowboys. Lucas ?
Sur le papier, d'ailleurs, je crois, alors c'est toujours la force du calendrier calculé sur les victoires de l'année dernière, ce qui est toujours un peu trompeur, mais je crois que les Commanders ont l'un des calendriers les plus faciles si on se base sur l'an dernier. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en même temps, on voit qu'il y a des équipes quand même qui sont prenables. Déjà, j'ai envie de dire que c'est quand même une saison peut-être pour Ron Rivera qui est très importante parce que qui pourrait lui coûter son poste, parce que avec l'effectif quand même qu'il y a et l'absence de progression voire la régression qu'il y a, ça pourrait être dangereux pour lui. Et si je dois dire un prono, je dirais 6. Je vais être peut-être dur, mais
non, moi je suis à 6 aussi.
J'ai du mal à monter à plus que 7. Ouais. On a vu l'année dernière que ça ils finissent à 7 victoires, mais sur le même exemple que je disais, c'est en plus en ayant fait quelques coups, je pense à la victoire notamment contre Tampa. C'est une équipe qui peut montrer, qui peut changer de visage d'une semaine à l'autre. Et en effet, par rapport à Rivera, c'est vrai que je suis pas sûr qu'il pourra tirer cette équipe de Washington plus haut que là où il l'a déjà amené. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. J'espère encore une fois me tromper, mais j'ai du mal à voir Washington passer au-delà d'un bilan de cette victoire. Ils se sont pas suffisamment améliorés, à mon sens, et restés peut-être un petit peu trop stagnants par rapport à la saison dernière pour vraiment donner l'impression que la fiche va être nettement améliorée cette saison.
Bon, ce ne sera pas encore pour cette année les playoffs en théorie pour Washington. C'est la fin de la preview des Commanders. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des évaluations sur vos applis de podcast préférés. N'hésitez pas évidemment à partager l'émission également. Et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur tdactu.com. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude aussi. On se retrouve le 3 septembre pour une émission en public, la 500e. Ce sera Hard Rock Café Paris à partir de 16h. Les résas, les liens seront en ligne à partir du 16 août sur le site sur tdactu.com. Merci beaucoup, Lucas.
Merci, messieurs. Je crois qu'à demain.
Exactement. Merci, Greg. À demain également pour une nouvelle preview.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.